Good afternoon, ladies and gentlemen.
Bonjour, messieurs, dames. Soyez les bienvenus dans cette session pour la présentation de la version préliminaire du rapport de l'équipe de révision du JUIS. C'est un grand plaisir de vous voir, vous tous, ici. Nous allons commencer notre réunion dans quelques minutes. Veuillez vous asseoir. On a des documents à réviser et nous espérons que ce sera une session interactive dans la mesure du possible.
All right, I think we'll get started.
Eh bien, je crois que nous pouvons commencer. Bienvenue à cette session. Je veux souhaiter la bienvenue à mes collègues de l'équipe de révision du JUIS, aux membres du personnel de l'ICANN et à la communauté de l'ICANN. Cette salle est assez grande, donc si vous voulez vous approcher ici, soyez libre de le faire pour que vous puissiez mieux voir la présentation et que vous puissiez participer aussi. C'est toujours un peu difficile d'avoir l'équilibre de l'interaction dans ces sessions, mais il faut aborder un rapport de 120 pages et ses annexes en plus de vouloir vous entendre. Nous voulons vous présenter nos trouvailles et nos recommandations. J'espère être en mesure de réviser le rapport rapidement pour avoir le temps suffisant pour la discussion ou le débat. Bien, la présentation est déjà prête. Nous avons publié la version préliminaire en décembre dernier et il y a eu une période de commentaires publics assez longue qui tient compte de l'espace du délai entre la dernière réunion de l'ICANN et celle-ci. La période de commentaires publics sera ouverte jusqu'à la fin de cette réunion pour que les gens aient la possibilité d'analyser le rapport et de présenter leurs idées le long de cette réunion. Vous voyez dans la présentation la manière dont nous avons divisé le rapport en 8 chapitres. Nous avons des annexes avec beaucoup de détails qui incluent un rapport complet, un rapport de recherche du consommateur. Après avoir entendu la communauté, nous allons travailler dans notre rapport final qui devra être prêt vers la fin avril. C'est ce qui est prévu. Le mandat de ce groupe est établi dans l'affirmation des engagements avec le mandat des autres équipes de révision, comme par exemple l'équipe de révision de la responsabilité et la transparence et celui de la sécurité et la stabilité. Nous avons commencé notre travail en octobre 2010 et nous avons travaillé jusqu'à la fin du mois de novembre, début décembre 2011. Il est important, je crois, de savoir ce qui suit par rapport au JUIS, qui concerne les intérêts de beaucoup de parties prenantes. Il faut tenir compte que notre équipe est intégrée par des représentants de multiples secteurs. Nous avons des experts de la confidentialité, des experts des organisations du respect de la loi, des regroupements des parties prenantes, registre, bureau d'enregistrement, se charger du respect de la loi de la confidentialité. Nous avons aussi les utilisateurs non commerciaux et ceux qui protègent les droits des marques commerciales. Nous voulons arriver à des recommandations faites par consensus pour pouvoir continuer notre travail parce que ceci paraît assez compliqué. Et il faut voir comment arriver au consensus dans la mesure du possible. J'ai le plaisir de vous dire que grâce à mes collègues de l'équipe de révision, toutes les recommandations qui seront présentées ce jour-ci ont été obtenues par consensus au sein de l'équipe. Nous allons partager avec vous nos résultats qui vont servir de contexte pour comprendre les recommandations. Notre mandat établi dans l'affirmation des engagements était de réviser la portée des politiques actuelles du JUIS de l'ICANN et ses mises en œuvre pour ce qui est du respect des attentes de confiance du consommateur. Nous avons donc dit, eh bien, quelle est la politique? Beaucoup de personnes avec lesquelles nous avons parlé nous ont assuré que cette politique existait déjà, mais nous n'avons pas pu la trouver dans un document. Il est clair que ceci est mis en place dans une série de questions. Par exemple, le contrat du registre, le contrat du bureau d'enregistrement, des politiques de consensus, de la GNSO, etc. Nous avons aussi les antécédents des RFC et les antécédents du DNS et le débat du JUIS au sein de l'ICANN. L'affirmation des engagements dit ce que c'est la politique. Nous n'avons pas pu la trouver. Nous n'avons pas trouvé de document. Et voici donc notre première recommandation. J'espère que dans ce contexte, vous puissiez comprendre que nous ne demandons pas un grand développement de politique. Ce que nous demandons, c'est la documentation, l'information qui soit accessible pour ceux qui viennent pour la première fois dans cet environnement et veulent savoir de quoi s'agit justement la politique du JUIS. Nous travaillons ardument parce que nous travaillons pour la politique et à la mise en place de la politique aussi. Il a fallu voir quels sont les efforts à faire de la part de l'ICANN. Heureusement, nous avons mené une séance avec l'équipe du respect. Nous avons visité l'équipe du respect de l'ICANN et nous avons travaillé avec eux. Ce qui est clair, et l'une des alertes de cette équipe du respect de la loi, c'est la politique des données du JUIS qui rappelle le besoin de maintenir les données précises et mises à jour. Il s'agit d'une politique dont l'objectif est d'améliorer la qualité des données au sein du registre parce que l'idéal, c'est que pour nous, avoir du succès dans cette intervention de politique devrait nous amener à ce résultat. En fait, l'ICANN suit avec précision les bureaux d'enregistrement qui reçoivent ces notifications ou qui les envoient. Il y a donc un pourcentage élevé de respect par rapport aux politiques. Mais quand nous voyons de quoi s'agit la politique, à savoir la communication des bureaux d'enregistrement pour les convaincre qu'il faut avoir des données mises à jour et exactes, nous voudrions savoir quels ont été les changements des données comme résultat de cette mesure et comment pourrait-on les mesurer. Je peux parler longuement de ce sujet, mais bref, on ne sait pas ce qui se passe avec les données quand les notifications sont envoyées. On consacre donc beaucoup de temps et beaucoup d'efforts à ce travail, aussi bien de la part des bureaux d'enregistrement que de l'équipe de conformité. Et il y a beaucoup de plaintes de registrants qui ne savent pas ce qui se passe avec les notifications, qu'ils reçoivent des notifications individuelles qu'ils ne comprennent pas et qu'il n'y a pas de suivi. La deuxième recommandation, c'est justement fermer ces gaps pour essayer de voir les résultats de cette politique d'intervention et voir si nous pouvons mesurer les effets de cette intervention au fil du temps, eh bien là, nous pourrions analyser si on fait ce qu'il faut faire et si l'on peut mettre en place les changements adéquats. Le troisième résultat, qui devrait être le premier, reflète une série de facteurs qui sont apparus non seulement pour ce qui est de l'équipe de conformité, mais de plusieurs secteurs de la communauté. Bref, les gens étaient à peu près contents des détails du contrat, mais il faudrait avoir de meilleures dispositions par rapport au RUIS pour l'accréditation des bureaux d'enregistrement. Si nous, c'est-à-dire, il faudrait confier à tout cela, mais l'impression, c'est que personne ne fait rien. Et je cite l'une des personnes qui nous a donné son apport. Nous avons les outils, mais il ne se passe rien du tout. Il y a une sensation, cette sensation apparaît au sein de l'ICANN et aussi au sein de la communauté. La sensation que l'équipe de conformité n'a pas les ressources suffisantes. Quand nous voyons l'expansion du DNS qui arrivera prochainement, il faudra avoir une priorité d'émergence. On peut... Les personnes doivent faire face au problème, mais que peuvent-elles faire si elles n'ont pas les outils ou la vision stratégique, si le problème est illimité, contre les ressources limitées dont ils disposent? Alors, comment on peut faire pour donner du pouvoir à cette équipe pour qu'ils jouent un rôle plus proactif, capable d'assurer un environnement où plusieurs acteurs vont partager la possibilité et de travailler avec ce qui devrait fonctionner vraiment? Comment peut-on encourager la culture de la conformité? Nous pensons que le conseil d'administration et les cadres devraient se charger de l'équipe de la conformité et du RUIS en particulier. Voilà pourquoi nous avons fait cette recommandation. Je crois que dans tous les environnements, comme dans le cas de cette organisation à but non lucratif, on peut toujours mieux travailler en ce concernant la diffusion, ça c'est clair. Mais l'une des études innovantes et intéressantes que l'on a faites, c'est une recherche sur les consommateurs de 10 pays sur leur connaissance sur Hui, sur leur capacité de trouver quelque chose. On leur a montré un site web, on leur a demandé de trouver le responsable de ce site web. Dans nos annexes, nous présentons une vidéo de la manière dont les consommateurs ont essayé de trouver cette information. Cependant, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est chercher le registre du RUIS. Et lorsque l'on leur a présenté le concept du registre RUIS, elle leur a demandé de faire la recherche, ou bien ils ne l'ont pas fini, ou bien ils n'ont pas pu interpréter le résultat. Là, il y a un problème. Nous, en tant que communauté, nous pourrions décider ou définir. Eh bien, ceci n'est pas un outil pour le consommateur. C'est un outil pour les experts et pour les secteurs de l'industrie qui s'occupent des marques commerciales. Ce serait une conclusion raisonnable, mais si nous considérons que cela peut être important et si nous savons que notre tâche est de promouvoir la confiance du consommateur, on peut dire que la position actuelle, et ceci peut faire l'objet de futurs travaux, nous pouvons dire que les consommateurs ne savent pas de quoi s'agit le RUIS. Il faut donc faire des travaux de diffusion pour attirer des personnes qui n'appartiennent pas à la communauté de l'ICANN et aux commissions de la protection de données dans les organismes d'application de la loi. Voici donc la situation par rapport à la conscience publique, à la diffusion et au processus d'apport. Voilà pourquoi nous recommandons la diffusion au sein de toute la communauté et que cette diffusion dépasse la communauté de l'ICANN. Dans les prochaines diapos, nous verrons les résultats sur l'exactitude des données. L'exactitude a été très analysée et a différentes significations pour les différentes personnes. Bien entendu, nous avons la possibilité et l'objectif d'arriver au 100% d'exactitude dans les données de Huis et de pouvoir le conserver. Cependant, heureusement, nous avons eu des représentants d'organismes pertinents et il y a eu des membres de la communauté de l'ICANN, des gens avec une vision pragmatique sur la question. Ils ont pu trouver la manière de contacter le registre. Ils seraient en principe d'accord. Ceci nous amène à la seule étude d'existence que nous avons pu trouver sur l'exactitude des données dans l'environnement de l'ICANN qui date de 2009-2010. Ça fait déjà 3 ans. Et nous voyons qu'il y a un échantillon significatif de données statistiques qui était si mauvais que c'était impossible de contacter le registrant, soit par fax, par téléphone, soit par courrier postal ou par courriel. Pour nous, cela représente une priorité. C'est une des questions principales et qu'il faudra aborder prioritairement. Ceci devrait être traité de sorte de pouvoir faire la traçabilité. Dans nos recommandations, nous avons fixé des objectifs dans une période de 2 ans. Nous aimerions voir un changement significatif pour ces questions de contacter les personnes. Ceci a trait au rapport et aux rapports annuels, aux rapports d'État, parce que nous voyons la manière de configurer la prochaine équipe de révision du Huis. Ils doivent avoir les études, les critères que nous n'avons pas eus. Ils doivent avoir les documents. Ils doivent avoir une sensation générale ou un panorama général pour savoir quels sont les progrès de ce programme, de savoir si on va dans la direction correcte ou pas. Moi, j'ai parlé. Et puis, c'est vous qui allez parler. J'ai dit que ceci est une base de données distribuée avec plusieurs acteurs qui ont plusieurs responsabilités. Nous voulons garantir une chaîne de responsabilités claire du registre, du registrant, du bureau d'enregistrement et tout autre intermédiaire existant, parce que à ce jour, c'est très facile pour les acteurs individuels, soit une industrie, un registrant ou quoi que ce soit, de dire qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire là-dessus. Eh bien, individuellement, c'est peut-être vrai, mais pas si on l'envisage de manière collective. Nous croyons donc qu'une chaîne de responsabilité claire et sans ambiguïté, c'est la route à suivre, le chemin à suivre, la communication, communication et communication. Nous croyons qu'il y a une très bonne description des droits et des responsabilités du registrant actuellement qui pourrait devenir la base d'un programme de diffusion pour que les registrants soient capables de comprendre le besoin d'avoir des données exactes. Prochaine question. Si vous pensez que au juice, vous pensez à l'exactitude et à la disponibilité. L'exactitude veut dire différentes jours pour les différentes choses pour les différentes personnes. Pour ce qui est de la disponibilité, si nous voyons la rédaction de l'affirmation des engagements, il y a une hypothèse que toutes les données doivent être disponibles tout le temps pour toutes les personnes du monde entier. En fait, la réalité nous démontre qu'il y a toute une industrie qui permet que les registrants ne voulant pas que les données soient disponibles tout le temps puissent agir à partir de représentants qui représentent le registrant et qui assument les droits et les responsabilités du registre des noms de domaine. Ou sinon, il y a un service privé. Alors, le nom du registrant est là, mais il y a une autre adresse. Ceci est fait de manière informelle. C'est difficile à identifier vraiment. Il faudrait rappeler des noms de fournisseurs de services de représentation proxy. Nous voyons également qu'en tant qu'équipe de révision, nous avons accepté qu'il y a le besoin légitime que les personnes, les organisations et les entreprises cachent cette information. Et il y a plusieurs raisons justifiant cela. Il y a des préoccupations, des secrets commerciaux, des secrets industriels, des questions de confidentialité personnelle. C'est un besoin légitime. Ce n'est pas incorrect. C'est un besoin. Cependant, nous voyons que les gens qui ont besoin de ces données rapidement doivent savoir comment accéder à ces données et doivent confier qu'il va y avoir un processus prévisible pour l'obtention de ces données. Parce que si on doit obtenir les données rapidement, le fait de faire un processus trop long qui peut-être ne nous fournirait pas les données, ce n'est pas l'idéal. Nous voyons que la capacité de réponse des fournisseurs de services de confidentialité, de représentation ou de proxy est variée. Il y a des commentaires des utilisateurs ainsi que des organismes de protection des marques commerciales et de respect de la loi. Et il y en a qui ne nous ont pas répondu. Nous voyons ici que nous travaillons avec la privacité, avec la représentation de manière séparée, bien qu'il y ait des points communs. Il doit y avoir un équilibre légitime entre les parties intéressées. Il y a un besoin des gens de cacher leurs données, mais il y aura aussi le besoin légitime de pouvoir accéder à ces données. Il faut donc travailler au sein de la communauté pour qu'il y ait une meilleure information sur le registre du juice, pour voir si c'est un enregistrement privé ou pas. Mais je crois que ce qui est important, c'est de considérer un processus standardisé pouvant être révélé, qui donne un environnement prévisible pour permettre la participation de tout le monde. Comme vous pouvez voir, tous les détails sont disponibles dans les documents que nous avons distribués. Les outils dont dispose l'ICANN et ce que l'on peut faire avec ceux qui ne respectent pas cette politique est très limité. C'est avoir la peine de mort ou rien. Si l'on travaille dans une accréditation, il y a une réserve naturelle et ceci devient la dernière option. Je ne crois pas que ce soit un résultat très controversé. C'est quelque chose que la communauté nous a manifesté. On dit qu'il doit y avoir une série de pénalités graduelles et d'exigences graduelles également. Nous, dans notre rapport, nous avons aussi parlé de l'encouragement, non seulement des pénalités, parce qu'il est clair que dans un environnement comme celui-ci, où nous avons le privilège de discuter avec des acteurs de l'industrie qui savent ce qui est viable et ce qui n'est pas viable. Et nous savons qu'il y a des gens qui viennent ici de bonne foi pour améliorer le processus. Ce sont là les personnes qui vont nous aider à trouver les solutions et les encouragements appropriés. Pour ce qui est des services de proxy ou de représentation, je voudrais vous dire quelque chose en détail. Étant donné que, à ce jour, les services de privacité ou de confidentialité sont dans l'environnement, nous devons prendre certaines initiatives. Nous devons encourager ceux qui appartiennent à ce marché ou à cette industrie à ce qu'ils développent de meilleures pratiques de respect volontaire. Je crois qu'il y a un certain scepticisme si cela va se passer ou pas, et toute cette idée des meilleures pratiques volontaires au sein de l'environnement de représentation représente une nouvelle opportunité. Le proxy ou la représentation est une image ou un miroir de la question de la confidentialité. Il y a une discussion qui est menée là-dessus. L'autre aspect des données du juice a été décrit précédemment. Les données du juice sont difficiles à trouver et il y a beaucoup d'experts qui travaillent, qui appartiennent aux organismes du respect de la loi, etc., qui cherchent constamment, qui analysent dans différents registres, comme par exemple le point net. Ils voient le proxy, ils voient le bureau d'enregistrement, ils obtiennent les détails. Mais si vous prenez la place du consommateur qui pose des questions, nous devons considérer la confiance du consommateur. Et voilà toute une question très compliquée. Il faut que les gens sachent qui est derrière un site web. Il ne s'agit pas seulement de site web, mais de nom de domaine aussi. Mais il y a un gap ici. Nous savons qu'il peut être utile pour l'ICANN de fournir une espèce d'outil pour pouvoir réussir à ce travail. Ceci peut amener des difficultés au sein de la communauté. Nous ne parlons pas de migrer de bases de données dans différentes juridictions. On ne parle pas de grands changements. On parle tout simplement de prendre en considération cela de notre point de vue. Nous sommes multilingues et nous devons avoir des outils qui nous permettent de ce faire. Il faudrait aller au .com ou au .net qui sont peut-être les plus difficiles à analyser et voir s'il y a une possibilité de mettre en place ce dont nous parlons.
Les trois recommandations finales sont par rapport au nom de domaine internationalisé, c'est-à-dire nom de domaine exprimé dans des caractères différents en langage ASCII qui deviennent de plus en plus courants dans le marché. Malheureusement, comme c'est souvent le cas dans ce monde qui évolue avec une telle vitesse, nous ne pouvons pas être à la hauteur de ces changements aussi rapides. Et c'est pour cela que les données concernant les enregistrements ne coïncident pas toujours avec le nom de domaine qui ne sont pas en ASCII. Je crois donc que si on enregistre un nom de domaine, par exemple, en cyrillien ou en arabe, pour une information plus exacte, il faut le saisir dans sa langue maternelle. Les outils n'existent pas encore pour pouvoir transformer cela de façon correcte, si bien que des différentes mesures ad hoc ont été adoptées qui ont donné lieu à des regroupements de données assez importants, mais inexact. Un rapport dit justement que l'une des principales raisons de l'inexactitude des données est liée justement à ces noms de domaine internationalisés. Pour cela, il faut vraiment tenir compte des IDN dans ce problème. Et ici, vous voyez, il y a trois recommandations qui nous amène à voir comment peaufiner ce modèle de données et pouvoir l'insérer dans le contrat. Pour ce registre de données qui doivent être exactes, nous sommes maintenant vers la fin, nous arrivons à la fin de ces recommandations. Nous vous avons présenté nos points de vue, mais nous aimerions savoir quels sont les délais pour mettre en œuvre ces actions. Qui devrait mettre en place ces actions? Qui devrait en avoir la responsabilité? On a vu qu'une diffusion par rapport à ces questions a été faite auprès de la communauté. Et je voudrais que l'on soit tous clairs par rapport à une chose. On adresse ces recommandations au conseil d'administration parce que c'est le conseil d'administration qui doit mettre en place ces recommandations et c'est eux qui doivent nous dire les actions à mettre en place. Il y a des processus appropriés qui existent déjà et qui permettent d'impliquer d'autres membres dans d'autres processus ou d'autres processus de développement de politique. Comment peut-on surveiller ce processus? C'est une question que nous adressons au conseil d'administration. Si l'on considère l'affirmation d'engagement et que l'on regarde les délais, on voit que cela doit se poursuivre. Comment peut-on parvenir à avoir une certaine continuité entre une révision et une prochaine révision? Comment peut-on faire un suivi de ce progrès? Que se passera-t-il une fois qu'on aura publié notre prochaine révision? Allons-nous disparaître? Qui va s'assurer que si les recommandations sont acceptées, elles soient mises en place et que cette mise en place soit satisfaisante? Quel sera le mécanisme employé pour y parvenir? Nous avons aussi l'équipe du ATRT, ainsi que des volontaires qui jouent ce rôle, mais il n'y a aucune autorité qui joue un rôle formel dans ce sens. Je pense qu'il s'agit donc d'une question qui doit être considérée par la communauté, car au fur et à mesure où l'on va s'adapter au nouveau régime, il faudra tenir compte de ce sujet. Voilà, il y a ici quelques liens qui peuvent être utiles. Il y a une date pour la présentation de commentaires et je serai heureuse de répondre à vos questions ou d'entendre vos commentaires. Merci beaucoup. J'aimerais bien que vous vous présentiez, s'il vous plaît. Merci, je suis Maiko, présidente de LangMagic. Et je suis aussi une partie intéressée. Je vous remercie pour cette présentation. Nous utilisons la technologie de façon régulière. Pour moi, la sécurité est un aspect fondamental. Mais j'aimerais mettre l'accent sur deux ou trois points spécifiques qui ont été abordés aujourd'hui. Dans un des panels précédents où l'on a discuté le fait que l'ICANN n'a aucun mandat en ce qui concerne les données du WHOIS et de comment on devrait gérer les TLD. Il nous faudrait créer un mandat, car s'il y a un mandat de la part de l'ICANN pour dire au bureau d'enregistrement de publier un certain nombre de données, cela pourrait être fait. Ce n'est qu'un exemple. Je ne veux pas vous mettre dans une situation difficile, mais je voudrais vous dire que j'ai géré le CR depuis un certain temps et il y a des informations qui ne sont pas publiques. Malheureusement, il y a un processus difficile auquel nous sommes confrontés. Quelle est donc la meilleure façon de mettre en place le WHOIS? Quelles sont les activités qu'il faut mettre au point? Je ne vais pas parler en représentation de NIC, mais que peut-on faire d'autre au lieu de faire la queue pour pouvoir nous adresser à Nick. Je pense que c'est des questions importantes à considérer pour que votre équipe puisse prendre des décisions pour avancer. Dans certains cas, il faut être très sûr de ce qu'on fait et dans d'autres cas, il faut engager, impliquer les parties intéressées. Mais si maintenant on consulte la base de données de WHOIS, ce n'est pas agréable de savoir qu'il y a des données qui ne fonctionnent pas correctement. Il y a beaucoup de noms de domaines qui sont bloqués et il n'y a pas des actions ou des pas à suivre pour le résoudre. Il nous faut donc bien considérer ce sujet et le rendre plus facile à comprendre pour le consommateur. Ce qu'il nous faut, c'est un standard du WHOIS qui soit vraiment très simple, plus simple que celui qu'on a aujourd'hui et qui fonctionne bien. Mais le plus important, c'est d'avoir la possibilité de demander au bureau d'enregistrement de donner ces informations. Je voudrais enregistrer une adresse IP ou un nom de domaine et ça, c'est fondamental pour Internet. Quand on demande à connaître une ressource publique, on doit pouvoir mettre un nom public pour le contrôler. On ne demande pas des informations sur la personne, comme par exemple l'âge, le sexe, etc. Mais je pense que la meilleure chose que l'ICANN peut faire actuellement, c'est de créer un mandat établissant que tous les TLD registrants doivent être simples, doivent être on doit pouvoir les faire développer, ça doit être simple pour les consommateurs tout en nous assurant que ça fonctionne et que le nom d'une personne soit aussi ajouté à un domaine public. Je suis Verin Schein, président du Monde. Ben oui, c'est vrai. De monde.com. J'ai lu le rapport complet. Je l'ai fait, je l'ai lu. Et j'aimerais faire un commentaire assez controversé. Nous nous occupons de l'informatique au niveau universitaire. Ce que je veux dire, c'est que nous devons uniformiser le vocabulaire, avoir un langage commun pour établir la différence entre exactitude et précision. Il nous faut être précis par rapport à cela. Par exemple, je peux dire que je suis Barry, que j'habite à Washington, à Boston, aux États-Unis. Voilà, cela, c'est être précis. Et il faut différencier ces termes-là parce que ça peut porter à confusion. Et bien évidemment, les gens seront contents de recevoir une réponse. Bonjour, je suis Sabine. Et j'aimerais partager notre expérience en ce qui concerne les politiques du WHOIS. J'aime pas le titre politique du WHOIS et accessibilité, car nous parlons, d'après mon point de vue technique, on parle d'un protocole. Le WHOIS est un protocole qui comporte un certain type d'informations. On parle d'une politique qui a pour but d'obtenir des informations par rapport au nom de domaine. Le WHOIS est donc destiné à accepter une spécification de protocole de IETF pour pouvoir fournir un accès au nom de domaine et aux informations pertinentes. Nous voyons, à partir de notre expérience, que d'un côté, il nous faudrait compter sur des informations accessibles et des informations simples, Mais je peux vous dire qu'un grand nombre des informations dont nous avons besoin sont comme ça. Et en plus, le nombre de demandes ou de requêtes qu'on a envoyées pour ces données ont un intérêt légitime. Je sais que vous avez très clairement dit que les agences d'application de la loi, les centres d'information de marque ou les personnes qui veulent peut-être vendre un nom de domaine ou des personnes qui veulent davantage d'informations sur certains produits veulent obtenir ce type d'informations. Et il faut bien sûr parvenir à un équilibre entre les intérêts légitimes et l'information, car il y a des personnes intéressées à l'information et d'autres qui sont intéressées au nom de domaine. Et d'autre part, vous avez dit qu'il n'y a pas de possibilité de soutenir un IDN par le biais du quiz, mais il y a une procédure ou un outil appelé Iris qui est parfaitement capable de fournir un soutien aux excès de IDN et aux informations pertinentes de façon plus ample. Le point suivant, c'est que ce que nous voyons, c'est qu'il y a de plus en plus de pression de la part des agences de protection aux consommateurs. La semaine dernière, j'ai reçu un appel d'une agence de protection des consommateurs de l'Allemagne qui nous demandait si nous avions des données protégées. Et ils nous ont suggéré de fournir davantage de protection aux informations pour qu'il y ait moins d'accès à ces informations. Voilà les trois points que je voulais partager. Si l'on parle de la politique du quiz, on ne peut pas uniquement nous focaliser sur l'exactitude, mais aussi sur l'accessibilité. Il faut regarder les deux côtés de la monnaie, c'est-à-dire la légitimité des intérêts. Nous devrions peut-être considérer tous ces aspects. Merci, Sabine. Bonjour, je suis Bénédicte Addis. Je viens de l'agence de lutte contre le cyberdélit, la cyberdélinquance, pardon, du Royaume-Uni. Encore. Donc, je répète, je suis Bénédicte Addis. Comme je vous disais, j'appartiens à l'organisme d'application de la loi et je tiens à faire trois commentaires. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter ainsi que toute l'équipe pour cette enquête que vous avez menée sur le quiz et sur le bon sens. Le bon sens n'est pas toujours quelque chose qui est mis en œuvre, donc il faut vraiment vous féliciter. Mon deuxième commentaire concerne les services de privacité et de participation des proxys. J'ai l'impression que ces services seront acceptés et utilisés. Et si ces services sont acceptés, il y a la possibilité que l'application de la loi ne soit pas un problème. Ma question est la suivante. Y a-t-il la possibilité de changer ces services, que ce soit de façon privée ou publique, aux agences d'application de la loi? Ma deuxième question, le troisième commentaire est lié au modèle dont vous avez parlé. Qui doit être très sensible, le modèle de Nominate, qui doit être très sensible, le modèle de Nominate. On ne peut pas avoir toutes ces informations pour une utilisation personnelle. Et je voudrais formaliser cette question des services de proxy ou de représentation pour que ce ne soit pas possible de substituer un nom par un autre. Merci. Il y a quelqu'un qui voudrait répondre à la question de Bénédicte ? Dans le panel. Peter Nichol du GAC. Merci, Bénédicte, pour cette question. Nous avons beaucoup discuté au sein de l'équipe de révision sur ce sujet, sur le fait de savoir combien d'informations est nécessaire. L'équipe de révision n'est peut-être pas l'outil ou le mécanisme idéal pour négocier des politiques ou des contrats, mais il faut dire qu'on a un problème que nous devons résoudre. Il est important de pouvoir suggérer une façon de pouvoir avancer. Pour ce cas en particulier, le problème est clair. Il y a le besoin, on identifie un besoin pour la communauté de nous envoyer ces remarques. Voilà le problème que nous avons identifié. En ce qui concerne les présentations que nous avons entendues, plusieurs problèmes doivent être résolus. Tel que vous l'avez bien dit, un grand nombre de personnes ont soutenu ceci ou étaient prêts à le reconnaître, à reconnaître ces problèmes. Mais je suppose qu'il faut affronter les risques et progresser, avancer. Dans le cadre de la réglementation et des contrats, on ne va pas mentionner toutes les règles. On sait qu'il y a des problèmes au niveau de la révision des processus et nous disons qu'au lieu de nous concentrer tout seul sur ce problème, il faudrait inviter les parties intéressées pour qu'ils s'impliquent dans la résolution de ce problème. On a bien sûr des informations privées, des informations publiques dans le cadre de l'application de la loi, mais nous voulons faire en sorte que le travail soit correct. Nous voulons vous inviter à nous aider à réfléchir sur la meilleure façon d'améliorer ces processus. En général, celle-ci est l'approche que nous utilisons, sans entrer dans le détail. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci, Peter. Cathy me dit que c'est exactement ce qu'elle allait répondre. Emily Taylor, je vais lire une question de la participation à distance qui vient du groupe GPM. La question est la suivante. Pourquoi l'ICANN ne propose-t-il pas des encouragements pour ouvrir un quiz, pour avoir un quiz exact et ouvert? Point d'interrogation. C'est une question ouverte. J'aimerais dire qu'il y a des encouragements que nous avons incorporés dans nos recommandations ainsi que des pénalités. Je suis Alton Mioder. J'étais très surpris d'écouter une chose que vous avez dite lorsque vous avez présenté le rapport. Vous avez dit que les personnes ont finalement admis que le consommateur ordinaire n'utilise pas le quiz et ne sait même pas de quoi il s'agit. Moi, je l'ai toujours soupçonné, mais il faut penser aux implications que cela peut avoir, parce que le mandat de votre équipe de révision était lié à la confiance du consommateur. Et ce que vous avez découvert, en fait, c'est que le consommateur n'utilise pas le quiz, ne s'en sert pas. De quoi s'agit-il? C'est ce que je voulais dire. Et puis, j'ai une recommandation pour ajouter à votre rapport. Le quiz concerne la supervision des utilisateurs et une partie de cette supervision ou cette vigilance peut être justifiée ou pas. Mais il faut arrêter de supposer que le quiz consiste en la protection du consommateur, mais qu'il s'agit plutôt d'une vigilance de la part des utilisateurs d'Internet. Il a été très bien établi que toute vigilance privée ou gouvernementale, et on sait tous les controverses qui existent autour des sites, des réseaux sociaux, les contrôles gouvernementaux. Il est clair donc que les personnes veulent protéger leurs informations. Je suis vraiment soulagée d'avoir entendu Émilie dire qu'on reconnaît qu'il y a un besoin légitime de services de privacité. Ma seule recommandation est de dire que cela n'est pas écrit sur les recommandations. Donc, je demanderai à votre équipe que de façon simple, explicite et ouverte, vous reconnaissiez le besoin légitime de cette protection de la privacité. Merci beaucoup. Milton, je comprends très bien votre suggestion et je comprends bien que ça doit faire partie des recommandations car cela fait partie des résultats du rapport. Je prends note de ce que vous venez de dire. Oui, dit Milton, parce que les gens ne lisent pas tout le rapport. C'est vrai, je viens de m'en rendre compte. Ce que dit Milton est correct. Actuellement, les consommateurs, d'après notre étude, et je ne dis pas qu'on est le dernier mot, mais les consommateurs ne sont pas au courant de ce que c'est le WHOIS et ne s'en servent pas. Il serait peut-être bien de faire la chose suivante. Si quelqu'un veut savoir davantage, connaître davantage par rapport à ce que c'est le WHOIS, lui donner la possibilité de le savoir. La confiance du consommateur n'est pas lié aux utilisateurs spécifiques d'Internet, mais plutôt c'est en rapport aux utilisateurs d'Internet de façon générale. Suzanne voulait dire quelque chose par rapport à ça. Dans notre étude, on a pu constater que les consommateurs interviewés, 1200 consommateurs dans 10 pays du monde entier, n'ont pas retrouvé le registre WHOIS. Mais je ne suis pas sûre d'être tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut en conclure que les consommateurs n'utilisent pas le WHOIS. Comme le WHOIS est une espèce de toile d'araignée et qu'il est parfois difficile d'y retrouver des informations, les consommateurs pensent qu'un tiers les aidera à retrouver ces informations. Il y a donc plusieurs façons de voir ce que c'est que le WHOIS et quelle est l'utilisation valable d'un nom de domaine. Et l'enregistrement, le registre WHOIS est très important. Si l'ICANN faisait une étude un peu plus approfondie, les résultats seraient peut-être différents. Je n'aimerais pas que vous basiez votre avis sur 1200 utilisateurs. Si je demande à ma maman si elle utilise le WHOIS, elle va me dire que non. Et donc je vous invite à demander à vos mères si elles utilisent le WHOIS. Et si vous expliquez à votre maman que vous faites partie d'un comité de WHOIS, ça va être pire encore. Je suis Bill Smith. Je voudrais ajouter quelque chose. L'engagement, l'affirmation d'engagement demande à ce qu'on détermine la portée du WHOIS en termes de sa contribution à la confiance du consommateur. La confiance des consommateurs n'est pas basée sur le WHOIS. Or, le mandat qui nous a été confié figurait dans l'affirmation d'engagement et on s'est basé sur la supposition qu'il fallait améliorer la confiance du consommateur. C'est la façon dont nous avons interprété notre mandat. Le WHOIS est-il un outil qui aide à renforcer la confiance du consommateur? Et cette étude que nous avons menée dans 10 pays sur 1200 consommateurs montre que le WHOIS est difficile à utiliser, qu'il est confus. Et si nous voulons que le WHOIS améliore la confiance du consommateur, il faut faire quelque chose par rapport à son amélioration. Je suis Canon. Je parle à titre personnel en tant qu'observateur de ce processus. J'ai deux questions et un commentaire. Je vais commencer par la question qui est liée à cette dernière partie de la conversation qui a trait au fait que vous proposez que l'ICANN crée une interface multilingue très simple. Ces services existent, ils ne sont pas gérés par l'ICANN. Alors, savez-vous ce que l'ICANN peut faire pour améliorer les services actuels? Une réponse rapide. Tout d'abord, nous avons constaté que tous ces sites ou tous les serveurs de quiz ne sont pas forcément ne font pas forcément la publicité de leurs activités. Les données ne sont pas cohérentes parce qu'il n'y a pas un modèle de données généralisé. Moi, j'utilise ce type de service de temps en temps, mais un utilisateur qui s'en sert pour la première fois retrouvera des informations qui n'ont rien à voir avec les informations ou la requête qu'il a saisie. Et en fait, la réponse ne sera peut-être même pas visible sur l'écran. C'est vrai, il existe ce type de service. Moi, je considère que c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose que l'on peut faire. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ces services ne présentent pas l'information de façon claire ou accessible et que ces services ne sont pas faciles à utiliser.
Un commentaire, un bref commentaire. Je ne connais aucun compilateur de données de quiz qui puisse nous donner les résultats du quiz. Peut-être il y a un taux de succès de 85%, mais il faut voir la manière pour que l'ICANN puisse concevoir l'interface pour résoudre cela pour chaque GTLD. La deuxième question est la suivante. Dans la première recommandation, vous dites il est difficile de trouver la politique donnant du soutien au WHOIS. L'ICANN devrait rédiger cette politique, dire de quoi il s'agit. Mais je ne comprends pas bien si vous avez fait une recherche pendant longtemps et vous n'avez pas trouvé la politique. Alors, comment peut faire l'ICANN pour trouver cette politique? D'une autre manière, c'est-à-dire sans la rédiger, par un processus de consensus, je crois. Vous, ça vous a pris un an pour trouver la politique et vous ne l'avez pas retrouvée. Que peut faire l'ICANN que vous n'ayez pas fait? C'est une bonne question. Nous l'avons trouvée, la politique, finalement, et nous l'avons écrite dans le chapitre 3. Je vous invite à la lire. Si l'ICANN veut copier le chapitre 3 de notre rapport, c'est bien. Mais on a passé longtemps à demander où est la politique du WHOIS. Votre question est valide. S'il y avait un document d'une ou deux pages, ce serait une bonne idée de mettre les aspects du contrat de registre, du bureau d'enregistrement, avoir une politique de consensus. Ce serait bien, hein? Ce n'est pas difficile à faire. Ceci a trait à des questions administratives plutôt. C'est comme vous dites, effectivement, vous l'avez trouvé. Pour finir mon commentaire, pour ce qui est de l'exactitude des données, je crois qu'améliorer la possibilité de contact est un bon objectif. Dans les recommandations actuelles, il est difficile de séparer l'exactitude et la possibilité d'avoir du contact. Mais le plus important, c'est que le problème auquel nous faisons face est le suivant. Ce n'est pas difficile de séparer les recommandations. C'est difficile de les séparer suivant le WHOIS. L'un est susceptible d'être contacté. Et si les données de contact du WHOIS ne sont pas exactes, on ne peut pas vous contacter finalement. Si ça se passe comme ça, la seule manière raisonnable de contacter quelqu'un, c'est justement que cette personne publie toutes ses données de contact. Alors, ceci entre en conflit avec la confidentialité ou la privacité de votre rapport. Il faut considérer aussi les questions légitimes concernant la privacité. Et ça va être difficile de concilier ces deux positions qui sont connectées, bien évidemment. J'espère et je crois que ces deux intérêts légitimes, mais qui sont en conflit, puissent cohabiter. Mais rien n'est parfait. L'orateur n'a pas de micro. L'orateur n'a pas allumé son micro. Je veux dire au monsieur qui parle qu'il y a une longue queue derrière vous et dire que les recommandations sur la privacité et la représentation recommandent cela. Pour ce qui est des propos de Holly, le fait que l'on ait cette fixation pour résoudre ce problème de privacité et de contactabilité, eh bien, nous savons que c'est le problème. Nous avons l'outil et peut-être il y aura une meilleure manière de trouver une solution au problème. Je m'appelle Wendy Seltzer. J'appartiens au Centre d'information de Marc. Merci d'utiliser les mêmes analogies que moi-même j'utiliserai. J'allais poser la question sur l'outil du quiz. Je crois que vous avez fait un très bon travail de recherche sur les questions qui apparaissent à partir de l'affirmation des engagements sur la portée du quiz comme outil. Vous avez fait un travail très dur pour trouver la politique, pour voir où on peut l'utiliser, le quiz. Vous vous êtes posé la question si vous pouvez demander si le quiz est l'outil approprié pour trouver une solution aux problèmes actuels et aux problèmes conjoints que nous essayons de régler. Ces problèmes sont les suivants. Comment pouvons-nous réduire les actions malicieuses d'Internet en essayant d'identifier les acteurs responsables de ces actions? Comment on peut travailler avec les organismes d'application de la loi pour qu'ils fassent un meilleur travail? Et deuxièmement, comment pouvons-nous faire, nous, les orateurs qui voulons avoir la liberté d'expression sur Internet, comment pouvons-nous faire pour nous exprimer de manière sûre, avec privacité ou même en montrant notre identité si nous le voulons? Le quiz semblerait une solution imprécise pour les deux problèmes. Alors, si nous essayons de mettre ces problèmes au sein du quiz, il y a un manque de coïncidence ou de solution des deux parties, et cela ne donne pas une solution aux positions de ceux qui défendent les droits de l'homme, le droit à la privacité, et non plus aux besoins des organismes de respect de la loi. Il faut mener cette question à un niveau d'abstraction pour pouvoir résoudre les problèmes de la communauté. Merci, Wendy. Oui, nous l'avons fait. Il faut mener les questions au niveau d'abstraction et puis après aux problématiques pratiques. Il y a des milliers de noms de domaines et le quiz, c'est finalement ce que l'on a. Donc, Sabine nous a dit qu'il y a des protocoles alternatifs qui ont été développés il y a des années et qui sont mieux que le quiz. Mais où sont-ils? Les gens utilisent le quiz et ils font confiance au quiz. C'est une solution imparfaite, ça c'est clair. Ça c'est clair pour nous qui avons consacré beaucoup de temps à étudier cela. La situation actuelle est bien loin de la perfection. De toute manière, on a travaillé sur d'autres protocoles qui sont meilleurs. Nous avons considéré que se passe-t-il si on élimine tout cet outil? Nous voyons qu'il y a des gens qui ont ce seul outil et qui seraient très affectés par cette décision. C'est donc très bien de considérer les questions abstraites, mais il faut voir également comment trouver une solution aux problèmes pratiques des gens qui ont besoin du quiz et qui l'utilisent. Je m'appelle Bill Smith. On l'a débattu, on l'a discuté en profondeur. Nous avons également nous limiter à la portée de notre travail, à savoir le quiz, le protocole, les données, le monde actuel. J'espère et je parle à titre personnel, que nous soyons en mesure d'arriver à quelque chose de mieux, où les droits des personnes, des individus soient respectés, ou les organismes des droits de l'homme, etc. En même temps, nous voulons attaquer ou lutter contre les délits actuels. Je crois que nous pouvons le faire. Mais pour cela, il va falloir formuler des questions que nous avons vues dans la session du RAA concernant la manière de faire la validation des données saisies. Nous avons une grande quantité de données. Vous pouvez choisir le terme que vous voudrez, imprécis, inexact. Il y a beaucoup de problèmes avec les données. Et si nous changions à un autre système demain, nous aurions quand même les problèmes si l'on avance. Et je crois que l'avancement va nous prendre des années, même à partir d'un point de vue technique. Et ces prises ne vont pas être adoptées. La communauté s'est déjà manifestée là-dessus. Elle n'utilise pas ces systèmes. L'IETF travaille sur de nouveaux protocoles, mais cela va prendre du temps. Puis après, il faut adopter les protocoles et tout ne se passe pas du jour au lendemain. Pendant ce temps, nous pouvons faire quelque chose avec le système actuel, essayer de l'améliorer. Il s'agit donc d'améliorer le système en définitive. Merci à tous les deux. Peter, je vais être bref parce que mes collègues ont signalé les points principaux. Mais je veux parler sérieusement et dire que probablement nous ne trouverons pas de solution à cette première étape, à cette première révision. Mais j'espère que la prochaine équipe de révision du HUIS puisse améliorer tout cela. Nous avons essayé de faire de notre mieux des améliorations sur les données disponibles que nous avons étudiées. Et nous espérons bien que la prochaine équipe de révision du HUIS prenne cela comme une base pour démarrer avec leur travail d'amélioration continue. Je vais commencer à contrôler le temps. Il nous manque 25 minutes pour 6 heures de l'après-midi et nous avons une liste d'orateurs. Nous voulons donc vous dire d'être bref. Nous vous demandons d'être bref. Je m'appelle Polly Rice d'Apralo. La présentation de cet après-midi sur la vérification des données présente des points intéressants qui pourraient être incorporé pour définir l'exactitude. On a vu qu'il y avait plusieurs niveaux d'exactitude à partir de la vérification, les données et aussi la transparence. Et je me demande si vous allez incorporer ce genre de méthodologie liée à l'exactitude de données. Ces niveaux n'ont aucun coût. Alors, peut-être là, il pourrait y avoir de la terminologie que vous puissiez utiliser pour que nous comprenions ce que vous voulez dire quand vous parlez d'exactitude de données et que les bureaux d'enregistrement le comprennent aussi. Merci. Nous avons vu la présentation avant d'entrer dans la salle. Merci. Bonjour. Je m'appelle Elisa Cooper. Je travaille avec le BC, le regroupement des affaires. Nous travaillons avec des recommandations, nous les soutenons. Il y a des commentaires qui pourraient être élargis et nous espérons vous présenter nos commentaires dans les prochaines journées. J'ai une question. Ma question a trait à d'autres choses que l'on révise actuellement, normalement le SAC 51 et la feuille de route de mise en place. Et peut-être pouvez-vous nous dire comment vos recommandations interagissent avec tout cela. Je m'appelle Bill Smith. La recommandation SAC 51 et la feuille de route par rapport à ça, eh bien, je crois que nous avons pris la définition de protocole, services et modèles de données du document SAC 51. Nous sommes d'accord dans une grande mesure. La terminologie nous effraie un peu. Ça nous fait peur. On ne sait jamais ce que ça veut dire. Mais le rapport dans ce document SAC 51, c'est un rapport dont nous n'avons pas très bien regardé la feuille de route. Peut-être pourrions-nous continuer à faire cette révision. Mais cela va évoluer au fur et à mesure. Nous avons essayé d'être au courant ou actualiser. Mais à un moment donné, il faut clôturer notre travail. Donc, nous avons utilisé le rapport SAC 51, la feuille de route également. C'est quelque chose de bien utile. Bonjour, je m'appelle Steve. Il faudrait mettre en place la recommandation 17. Vous la voyez maintenant. Susan, vous l'avez déjà indiqué. Vous avez dit qu'il fallait augmenter le standard des équipes de révision. Et ici, je suggère la notion d'un quiz étendu et d'un service étendu. ...90% effectifs, tel que Susan l'a dit, et qu'il y ait une base de données vérifiée par les cas en temps réel. La question est la suivante. Est-il nécessaire et suffisant d'avoir des changements concernant les politiques compte tenu des problèmes contractuels pour forcer tous les bureaux d'enregistrement qui ont des données ou qui saisissent des données, qu'ils les mettent à disposition dans des centres spécialisés? Alors, si cela n'est pas contenu dans la politique de consensus, peut-être on ne peut pas les obliger à le faire. Je suggère que les registres concernés et qui administrent le .com fassent cela parce que il doit y avoir une politique capable de forcer les bureaux d'enregistrement à faire cela. Je crois que la prochaine équipe de révision va essayer de collecter cette information à travers des études. Actuellement, nous ne travaillons pas sur des questions de politique. Ceci a trait tout simplement à l'accès et à la manière dont les bureaux d'enregistrement et les registrants peuvent accéder. Il est clair que, comme toutes nos recommandations, si elles sont adoptées, il faut voir comment ça marche. Il s'agit d'un processus qui nous concerne tous, qui nous implique tous. Nous espérons pouvoir améliorer toutes les questions et avancer dans la direction correcte. Merci. Bonjour, je m'appelle Peter, je travaille pour le DNS d'un opérateur de CCTLD. Je voudrais vous féliciter du grand travail que vous avez mené jusqu'à présent. Brièvement, vu le rapport, je n'ai pas pu le lire en détail, mais je n'ai pas vu de recommandations spécifiques liées à amender les RSC liés au quiz. Le RFC particulier, le numéro 32, qui a 25 ans. Et comme nous le savons, et tout a évolué. Étant donné qu'il y a une organisation dénommée les ignorants des RF qui essaie de tout conserver tel quel, il est important de les modifier parce que les registres ne peuvent pas quitter les RFC, particulièrement dans ce cas. Nous avons mené des discussions parce qu'il y a eu une liste noire qui a été préparée avec certains tels des Européens. Parce qu'ils ne sont pas adéquats aux règles du juice établies dans ce RFC en particulier. Nous débattons cette question parce que le commentaire était qu'ils essaient de protéger les données du registrant s'il est privé. Ceci est tout à fait en ligne, mais de toute manière, ce n'est pas marrant parce qu'on essaie de cacher des informations. Ce type de situation nous amène à une réponse qui ne nous impressionne pas en réalité. Étant donné que certaines règles ne sont pas respectées, on dit que le reste du monde doit respecter les caractéristiques locales. Et pour moi, c'est inconfortable de parler de cela comme si l'on parlait des caractéristiques locales. Si le RFC 032 n'est pas modifié, la situation va rester telle qu'elle, ce qui peut représenter un problème. Il y a une organisation qui mène à bien cette tâche. Il y a une série d'organisations qui mènent d'autres activités marrantes. Tout le débat unilatéral sur ce sujet. Je ne crois pas que nous soyons en mesure de résoudre cette question en modifiant RFC de 25 ans. Je pense personnellement que ces organisations vont perdre la crédibilité ou vont rester en dehors du business, indépendamment de la modification du RFC ou pas. Hein, c'est le mécanisme qui rit de qui. C'est mon opinion personnelle. Je suis d'accord que le RFC n'est pas mis à jour. Et si je me rappelle bien, le dernier RFC le plus important vis-à-vis du JUIS ne mentionne pas les définitions. Il s'agit simplement d'une série de lignes qui parlent de l'évaluation de la sécurité. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ceci n'est pas mis à jour, mais moi, je me demande si le mécanisme de l'équipe de révision est l'outil approprié pour aller à l'ITF et leur dire que nous voulons un nouveau RFC. Voici des questions à en tenir compte. Nous avons signalé cela, nous avons essayé de le résoudre, mais c'est aussi un mandat de l'équipe. J'apprécie beaucoup votre commentaire et j'apprécie votre expérience. Merci. Bonjour, Olaf, du personnel de l'ICANN. Qu'il y ait une question de la participation à distance. Toutes les recommandations sur la pénalisation de la mauvaise utilisation des données du JUIS, ils existent. J'ai pris moins de 3 jours pour lire cela. Si l'on a cette information publique, ce n'est pas seulement une préoccupation de privacité, c'est une préoccupation pour déterminer qui va fournir cette information. Merci de cette question. Comme vous le savez, il y a une étude actuelle sur l'abus et la mauvaise utilisation du JUIS qui concerne l'équipe de révision et la communauté tout entière. Il y a des questions que l'on est en train de traiter et il serait très utile pour la communauté, pour pouvoir avancer, d'avoir certaines informations basées sur l'évidence nous permettant de résoudre des questions comme celle-ci. Je dois dire également que nous avons entendu beaucoup de commentaires sur de la communauté et nous apprécions vos commentaires. Je m'appelle Steve de la propriété intellectuelle. On a fait le suivi des commentaires que je ne vais pas répéter, mais je vois que beaucoup de visages qui sont familiers et il y a eu beaucoup de discussions qui ont été menées sur cette question du juice. Mais vous devez contribuer davantage si vous voulez avancer, faire des progrès pour concrétiser ces recommandations. Je sais qu'il s'agit là d'un sujet pour la prochaine équipe de révision. Je ne crois pas que vous deviez en quelque sorte ne pas donner une valeur à ce que vous avez fait. Mais je ne suis pas d'accord avec mon collègue Steve Del Bianco. Et sur ce point, nous allons parler des commentaires de l'IPC sur le rapport préliminaire du juice. Pour la plupart des registres, l'information est dans le contrat et le contrat finit à la fin de l'année. Ceci nous donne l'occasion de négocier quelque chose de plus spécifique. Nous encourageons donc l'ICANN de le faire. Nous savons que nous sommes loin de la solution du juice étendu. Et le point com, bien entendu, est celui le plus affecté. Ceci sera possible cette année. On pourra le faire cette année. Et comme une coïncidence, l'orateur suivant, c'est Kid. Alors, il va certainement faire un commentaire similaire. Merci, Steve, de m'avoir volé une partie de mon commentaire. Je m'appelle Steve et je travaille pour le groupe des bureaux d'enregistrement. Je voulais dire que le groupe de bureaux d'enregistrement va émettre des commentaires. Nous avons beaucoup travaillé sur ces commentaires et je dois reconnaître au nom de mon groupe et à mon propre nom le grand travail que vous avez effectué pendant cette dernière période. Tel que Steve l'a dit, vous avez fait de grands progrès et il est clair pour ceux qui faisons partie de la communauté, nous savons que la question du juice a été traitée pendant 3, 4 ou 5 ans. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais il est important de signaler que vous, en tant qu'équipe de révision, vous avez fait progresser les débats et le dialogue. Merci beaucoup pour tout cela. En ce qui concerne le juice étendu, je crois qu'il est important de dire, parce que cela va être reflété dans les commentaires que nous allons faire, il est important que le juice étendu passe de juice simple à juice étendu. C'est un défi qui va avoir un impact sur plus d'un registre, sur le registrant, le bureau d'enregistrement et d'autres personnes appartenant à l'industrie. La recommandation des parties intéressées fait justement de traiter ce sujet à partir d'un PDP pour que toute la communauté soit en mesure de contribuer avec ses points de vue sur un sujet si important que ça. Merci beaucoup. Je peux demander quelque chose? Je peux poser une question? Nous parlons d'un processus parallèle entre le juice étendu et le juice simple. C'est une question simple. C'est une manière simple, pardon, pour que les gens puissent visiter la page et obtenir l'information. Il s'agit simplement d'une proposition. Ce n'est qu'un commentaire de notre groupe, tel que je l'ai déjà mentionné. si nous avons des outils de recherche, et ça doit être un outil central. Sinon, c'est l'ICANN ou un sous-traitant ou une autre organisation qui puisse collecter cette information du registre des 900 registres existants dans le WIS. Ce que je dis, c'est que en principe ou en théorie, je ne m'oppose pas à ce que vous dites, mais je crois qu'il y a des implications pratiques pour la recherche du registre simple. Je crois que nous pouvons utiliser le port 43 et ses services pour trouver l'information dans la racine. Moi, je l'ai fait manuellement. C'est peut-être difficile, n'est-ce pas? Du point de vue pratique, si l'on cherche un registre, si on l'envoie au registre, le lien est cassé. Donc, c'est le problème de pas mal d'utilisateurs. Donc, ceci n'a pas prêt à la titularité. Nous comprenons ce que vous dites. Je crois que là, il s'agit d'une question toute neuve. Nous l'avons étudiée pendant 10 ans au moins. Je m'appelle Thomas Beckler. Je parle en représentation à mon propre nom. Je veux mentionner 2 choses. Le RFC 32 est vieux et la possibilité de le déclarer historique n'a pas été suffisante. Nous sommes pires que dans d'autres occasions. Je suggère ne pas perdre du temps avec cela. Deuxièmement, je suis un peu confondue par la discussion sur la confiance du consommateur et l'étude que vous avez menée. Je voudrais poser une question sur la manière dont le WIS contribue à la confiance du consommateur et aussi concevoir une étude. J'aimerais avoir une réponse à cette question. Il devrait avoir un résultat pour cette étude. Et si la réponse est affirmative, c'est-à-dire qu'il y a un résultat, je veux savoir quel est ce résultat. Et si la réponse est négative, alors là, il faudrait reconsidérer la question. Vous avez dit que la réponse est négative. Alors, quelle est la gamme de résultats ou quels sont les résultats obtenus qui vous ont amené à avoir une réponse négative? J'ai eu quelques problèmes pour traiter cette partie du code en particulier. Lorsque ce sera offline, hors ligne, nous pourrons sans doute le traiter. Emily, je vais poser encore une fois ma question parce que peut-être elle a été un peu confuse. L'étude a une série de résultats possibles. Les résultats peuvent dire que l'on peut contribuer à l'affirmation ou il y en a qui peuvent ne pas contribuer. J'aimerais comprendre où nous en sommes. L'étude sur les consommateurs a été faite en 2 étapes. Tout en respectant les meilleures pratiques d'enquête. Je ne comprends pas bien votre question, mais on a démarré avec une enquête ou une étude d'exploration avec le conseil de la société que nous avons engagé et de ses professionnels, compte tenu de certains éléments. Je m'excuse, c'est peut-être parce que je suis très fatiguée, il est trop tard pour moi, mais je ne comprends pas ce que vous me demandez. Alors, je vais vous envoyer un email et on pourra en parler demain. Mike, tu es toujours le dernier. Moi, j'aime que tout le monde passe devant moi. Je n'ai plus de commentaires, sauf vous dire ou plutôt raconter une histoire. Je vois que vous rappelez de moi quand j'essayais moi-même de m'ouvrir le chemin là dans le site où j'appartiens et je travaillais dans la campagne et j'avais le soleil dans mon visage et j'étais fâchée, fatiguée, mais l'analogie améliore ou va de mieux en mieux parce que la première fois que l'on travaille au milieu de la campagne, c'est difficile parce que la nature est compliquée, mais c'est la première fois, hein, c'est la première expérience, c'est donc le plus difficile et c'est ce que vous avez fait. J'espère donc que tous ensemble, vous puissiez travailler comme c'est-à-dire que vous travaillez comme une famille tous ensemble et que vous puissiez amener la conversation au site où elle doit être placée, comme vous l'avez vu auparavant. Hein? Eh bien, vous travaillez tous ensemble, traitez-vous gentiment, vous vous êtes embrassés. Il faudrait prendre une photo de tout cela. Merci beaucoup de ce que vous avez fait. Je vous remercie de vos contributions, de votre participation et de vos commentaires. Et j'aimerais remercier personnellement à mes collègues et mes amis de l'équipe de révision du travail en collaboration que nous avons pu mener. Merci beaucoup.